suis quelqu'un d'organisé, je faisais mes menus à l'avance. Maintenant, je m'adapte au flexiblement aux légumes qui sont là. Et puis, j'achète plus du tout de légumes et de fruits dans les supermarchés, quoi. Je prends vraiment juste ce que je faisais pas avant.
Là, je suis en train de peser des fèves. Je vais prendre 900 grammes parce que je prends un panier entier de légumes à la ferme de Belette.
On a vu comment ils cultivaient ça dans leur champ, ils nous ont expliqué ça. Enfin, on a vu leur passion et ça nous a donné envie de les aider et de profiter des légumes locaux.
Bon, moi, j'aime bien, il y a toujours plein de légumes différents. C'est frais, on sait d'où ça vient, c'est local, c'est de bonne qualité.
Le Sud Touraine dans l'assiette, le podcast avec celles et ceux qui font l'alimentation, vous emmène à la rencontre de productrices et producteurs du territoire qui nous présentent leur modèle d'organisation collective pour commercialiser le fruit de leur travail en favorisant les circuits courts. Nathalie Frémont, l'une des fondatrices du magasin de producteurs Saveurs Lochoises, Mathieu Lerstaud, l'un des membres fondateurs de l'AMAP de Belettre, et Dani Pavula, dont les volailles sont présentes à Paulmy au sein des casiers de campagne, nous expliquent leur choix, les avantages de s'unir pour commercialiser et leur volonté d'être au plus proche des consommateurs locaux. Aujourd'hui en France, mais aussi à l'échelle du territoire, l'approvisionnement alimentaire est effectué à 80% au sein des grandes surfaces et 20% en circuit court. Le Sud-Touraine compte de nombreux producteurs. Des éleveurs bovins, caprins, de volailles, de lapins, des maraîchers, des paysans boulangers, entre autres, qui commercialisent en circuit court, à travers les marchés, la vente directe à la ferme, mais aussi les regroupements via des distributeurs automatiques, des AMAP ou encore des magasins de producteurs. Dans le cadre de son projet alimentaire territorial, la communauté de communes soutient l'approvisionnement local. Sophie Levasseur, chargée de mission projet alimentaire territorial.
Donc aujourd'hui, nous avons réalisé en 2021 un diagnostic sur le territoire pour savoir comment les personnes, les producteurs produisaient, comment les consommateurs consommaient. Ça a abouti à une réflexion plus globale par des actions autour de l'accompagnement auprès de la restauration hors domicile, auprès de l'installation et favoriser l'installation et la transmission. Et nous avons également un volet d'action assez conséquent sur l'accompagnement aux personnes qui s'installent pour créer leur débat. Boucher et consolider, puisqu'en fait on a un territoire très dynamique sur l'Auge Sud-Touraine, on a un tissu rural qui est vivant et on a du foncier qui reste pour l'instant abordable. Donc on souhaite accompagner les personnes qui s'installent dans leur débouché et ça se concrétise par exemple de la recherche et de l'accompagnement au financement pour des subventions d'équipement ou d'achat de matériel, mais également sur tout ce qui est accompagnement sur la création d'AMAP, par exemple, pour constituer des paniers. On a également fait une amorce pour créer un groupement d'achat entre producteurs et restauration hors domicile. Et toutes ces thématiques et toutes ces actions ont vraiment pour objectif de répondre à une demande de relocalisation de la production sur notre territoire.
Et en quoi c'est intéressant que les producteurs arrivent à se regrouper pour distribuer ?
Et ben aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui souhaitent acheter au même endroit tous leurs produits. En fait, il y a beaucoup de personnes pour l'instant qui vont encore en grande et moyenne surface parce qu'en fait, on a très peu de temps pour faire ces achats. Donc, on souhaite pouvoir faire en sorte d'avoir à un seul endroit tous les producteurs qui produisent sur notre territoire des produits locaux et de qualité. Et comme ça facilite grandement l'interconnaissance aussi entre le consommateur et les producteurs parce que souvent, ils sont plutôt aptes à rencontrer, à discuter de leurs produits avec les consommateurs qu'il n'y a pas forcément dans les grandes et moyennes surfaces.
À Loche, Saveurs Lochoises est un magasin de producteurs qui connaît une belle adhésion de la clientèle. Nathalie Frémont nous explique la genèse de ce projet et l'intérêt pour les producteurs de s'unir au sein d'un magasin.
Je suis associée à mon mari sur l'EARL de la Cocanderie à Bridoré. On est éleveur en bovin limousin. en céréales et les céréales, je les transforme en farine, puis les farines en gâteaux, en quiche, en brioche. Je suis co-gérante aujourd'hui du magasin Saveur Le Choise, où on est 5 associés, 3 co-gérantes et 5 associés. Et on travaille avec une 60aine de producteurs locaux. On est tous à peu près à 80 km à la ronde.
Alors, est-ce que vous pouvez me dire qui sont les associés et puis me raconter comment est né Saveur Le Choise? Qu'est-ce que c'est Saveur Le Choise et comment c'est né?
Alors, en 5 associés, nous avons donc l'ERL Marie, donc avec Alain et Corinne, producteurs de volailles à Chemillet sur Indrois. L'ERL de la Moselle-Rie avec Kelly et Damien Pruvot, producteurs éleveurs en porc, donc charcuterie, transformation à la ferme. On a Stéphane Bonsigne, notre viticulteur de Saint-Aignan. Et donc l'ERL de la Nalerie avec Michel et Véronique et Bonigal et Romain, leur fils, en producteurs d'agneaux à Serré-la-Ronde. Donc Saveur Le Choise est né dans un premier temps il y a 12 ans maintenant. On est en 2010. On était un groupe d'agriculteurs formé par le GDA, donc le groupement agricole, mené par Franck Pénaud. On a un groupe qui est né d'un sujet sur la vente directe. On était tous à se poser des questions sur nos exploitations, qu'est-ce qu'on allait devenir, vu la conjoncture. Et la vente directe nous paraissait une bonne idée. Après, il fallait mettre tout en commun.
C'est-à-dire, juste, je vous coupe à cet endroit-là, quelle était la problématique à l'époque et comment vous arriviez à commercialiser?
Alors, à l'époque, on avait donc sur le bœuf la vache folle, donc les ventes avec des prix catastrophiques. Il y a eu la crise sur les céréales, il y avait la crise aussi sur les porcs. Donc, on vendait nos produits à perte, puisqu'on est quand même l'un des seuls métiers où on ne décide pas de nos prix, où nos prix sont imposés par la COP, par l'État. Donc, on vendait effectivement difficilement. Donc la question se posait, pourquoi pas la vente directe, mais plutôt en commun, que de faire chacun chez soi. Donc on a travaillé tout en groupe, et puis un groupe de 10 à l'époque s'est soudé. On a fait des formations dans l'Ain, et puis après on a appris à travailler ensemble en fait. Des formations dans l'Ain parce que c'est l'un des précurseurs des ventes des magasins de producteurs. Donc par là, il y en a beaucoup. Donc on a pris des idées chez eux, on a été voir comment ils fonctionnaient, comment fallait et quelle forme juridique on pouvait avoir pour pouvoir faire un groupe avec de la cohérence et avec une façon de travailler dans le même sens. C'est important d'avoir tous à peu près les mêmes idées et sur nos exploitations de travailler de la même façon.
Quel a été ce projet? Et quand vous dites qu'il faut travailler tous de la même façon, qu'est-ce que ça signifie dans la mesure où vous êtes tous sur des productions de type différent?
Alors pour nous, travailler de la même façon, c'est qu'on garde les mêmes idées. C'est qu'on veut rester en travailler avec des produits locaux, travailler sur nos fermes en alimentation, être le plus autonome possible, que nos animaux mangent ce qu'on produit chez nous en priorité. Après, il y a toujours forcément des compléments parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais voilà, avoir cette directive et travailler dans le même sens, travailler le plus naturellement possible. Alors, on n'est pas bio, certes, mais on est le plus naturel, et que ce soit sur nos animaux ou sur nos céréales. Donc ça, c'était important pour nous. Et puis, on part sur les mêmes idées. Et c'est vrai qu'on, quand on décide de quelque chose, ça vient instinctivement chez les uns, chez les autres, parce qu'on a notre façon de travailler qui est un peu identique.
Quelles ont été les démarches que vous avez faites pour trouver un emplacement? Est-ce que ça a toujours été celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, sur la zone Vauzelles à Loches? Comment tout s'est mis en place? Et puis, tout simplement, comment vous vous êtes dit, on va devoir, en plus de tout ce qu'on fait déjà, s'organiser pour gérer un magasin?
Alors, zone de Vauzelles, parce qu'il y avait un bâtiment libre, et on a travaillé avec la communauté de communes pour essayer de trouver un endroit qui soit accessible pour tout le monde, qui ait aussi des emplacements de parking, parce que quand nos clients font des courses, il faut qu'ils puissent être pas très loin. En fait, on est parti sur un planning. On a tous des obligations chez nous, de la transformation. On est parti sur un planning où on essaye d'équilibrer au mieux entre les uns et les autres, de façon à ce qu'on se retrouve tous et pas trop submergés. Malgré tout, ça va vite, mais on arrive à trouver suffisamment de temps, je dirais, pour être présent ici. Et c'est important parce que l'agriculteur au magasin, c'est lui qui va pouvoir parler de ses produits. Et on est capable tous, autant comme on est, de parler des produits des uns des autres, puisque justement on se connaît maintenant. Et le fait de travailler ensemble et travailler dans le même sens a aidé à pouvoir vendre les produits, que ce soit en charcuterie, que ce soit en légumes, que ce soit en fromage, voilà. Et on connaît tous les produits. On les a tous testés, on les a tous goûtés. On se déplace sur les exploitations. Quand on prend un nouvel arrivant, on étudie ces produits avant de les mettre à la vente.
Comment s'est développé Saveur Le Choix? Vous êtes parti au tout départ, combien de producteurs étaient présents? Comment les choses ont évolué? Et déjà, on va commencer par cette question-là.
Alors, au tout début, on est parti avec 10 agriculteurs. On était 10 associés. Après, au fur et à mesure du temps, certains ont pris la retraite, d'autres ont arrêté l'agriculture, d'autres ont été submergés par la présence à avoir ici. Donc, on préférait se retirer. Alors, au tout début, on est parti avec nos propres produits à nous. Des 10 associés. Et puis, au fur et à mesure, on a été chercher d'autres producteurs, des petites entreprises, des petites exploitations qui faisaient de la transformation. On a été les chercher, savoir si ça les intéressait qu'on puisse vendre leurs produits. Et puis, au fur et à mesure du temps, la gamme s'est étoffée. Et aujourd'hui, c'est eux qui viennent nous chercher.
Donc, de ce point de vue-là, c'est une réussite.
Une très grande réussite, oui, c'est super agréable, c'est un super challenge et un très très beau projet, ça a été.
Combien de producteurs donc sont présents aujourd'hui?
Alors, nous avons une soixantaine d'agriculteurs qui nous mettent leurs produits en dépôt-vente. Donc, on est tous propriétaires de nos produits, donc ce qui fait qu'on n'a jamais d'invendu chez nous, puisque chacun récupère ses propres produits s'ils ne sont pas vendus. Et les retransforme, puisque à chaque fois, il y a une transformation derrière. Donc, il n'y a pas de perte, en fait.
Du point de vue de la clientèle, quelle a été la réponse au fil des années?
Alors, au tout début, je pense qu'on a eu une clientèle plutôt âgée. Après, on a une clientèle qui s'est quand même rajeunie avec des jeunes familles. Les idées reçues, c'était que, comme on était producteur, on devait avoir des prix moins élevés. Sauf qu'aujourd'hui, si on a monté un magasin de producteurs, c'est aussi pour qu'on puisse vivre de ce qu'on fait et donc de vendre à son juste prix. Voilà, on a des coûts de production et on sait ce que ça nous coûte de produire. Et le but, c'était qu'on puisse vivre de ce qu'on faisait.
Et alors, quel est le retour de la clientèle et quel a été le développement au niveau de la fréquentation de la clientèle?
Eh bien, la clientèle est très satisfaite et très étonnée de ce qu'on peut proposer. Quand ils ont passé le pas de la porte, ils sont étonnés qu'on ait autant de produits et une gamme aussi diversifiée. Donc, ils sont plutôt ravis. Ça, oui, ça monte toujours. On a toujours des nouveaux clients. On essaye de partager notre expérience, notre savoir-faire avec tout le monde. On est producteur, mais on est aussi à la vente. Alors, on transforme, on produit, on vend. On ne travaille pas avec les agriculteurs, on est avant tout agriculteur. Et ça, c'est super important, je pense.
Partons maintenant à Dolu-le-Sec, rencontrer Mathieu Lerstaud, l'un des membres fondateurs de l'AMAP de Belêtre, une autre forme d'association collective pour valoriser le travail des producteurs et l'approvisionnement local.
C'est une ferme qu'on a repris à 5 en 2015. Aujourd'hui, on est 7 dans l'équipe de travail. C'est une ferme qui, historiquement, en tout cas quand on l'a reprise en 2015, comptait 2 paysans sur des activités séparées, chacun de manière autonome, un paysan boulanger et un maraîcher. La MAP existait déjà à la ferme ici, Et nous, on a repris les deux activités, l'activité de paysan boulanger et l'activité de maraîcher, qu'on a regroupées dans une seule structure. Et on a étoffé le nombre de travailleurs, puisqu'on a développé les productions de manière assez conséquente depuis 2015. Quoi.
Alors, est-ce que vous pouvez me citer ces productions ?
Oui, alors on est paysan boulanger, ça veut dire qu'on produit des céréales panifiables. On les trie et on les stocke à la ferme. On les moue à la ferme, on fait notre farine sur un moulin à meule de pierre. Et ensuite, on transforme cette farine en pain au levain qu'on pétrit à la main et qu'on cuit au four à bois. Donc ça, c'est l'une de nos productions principales. Et la deuxième production sur la ferme, c'est la production de légumes. Donc on fait du maraîchage diversifié, c'est-à-dire qu'on fait à peu près une cinquantaine de légumes de saison, à peu près tous les légumes qu'on peut faire sous notre climat, en maraîchage diversifié. Et toutes ces productions sont faites en bio et distribuées soit à la ferme, soit en circuit court sur le département.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer du coup comment fonctionne l'AMAP ? Peut-être en amont, me redire quand cette AMAP de Belêtre a été créée, que vous avez reprise, et de quelle façon elle fonctionne ?
AMAP, déjà, ça veut dire Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est une association de consommateurs avec un ou plusieurs producteurs dont l'objectif est de soutenir l'installation d'un producteur. Et la plupart du temps, soutenir l'installation d'un producteur en maraîchage, au début en tout cas d'une AMAP. Donc c'est ce qui s'est passé ici en 2008. Il y a un maraîcher qui s'est installé sur la ferme avec le soutien d'une une quinzaine de familles à l'époque qui ont soutenu son installation en s'engageant à financer son activité et à lui financer l'intégralité de son activité et en retour à se partager l'intégralité de sa production. Donc nous, quand on a repris la suite, quand ce maraîcher a arrêté fin 2014, l'AMAP comptait à peu près une soixantaine d'adhérents. L'AMAP comptait en 2015 une trentaine d'adhérents, à peine une trentaine d'adhérents. On est très vite monté à une soixantaine d'adhérents. Aujourd'hui, on en a 120. C'est des familles du coin, dans un rayon à peu près de 20-25 km autour de la ferme, autour de Dojulsec. Et le principe est toujours le même. C'est-à-dire que cette communauté d'adhérents, de consommateurs, on la réunit tous les ans en Assemblée Générale au mois d'octobre. On leur présente à cette occasion le bilan de la saison qui vient de s'écouler, mais aussi un budget prévisionnel, le budget de l'année qui arrive, en leur disant voilà, le budget de l'atelier maraîchage, c'est ça. On leur présente l'intégralité des charges qui correspondent à la production de légumes. Et on leur dit, si vous financez l'intégralité de ces charges-là, vous aurez l'intégralité de la production qui vous est destinée. Ça, c'est vraiment le principe de la MAP. Tel qu'il a été pensé au début, c'est un système qui a démarré au Japon, qui s'appelle les Taikei. Et en japonais, ça veut dire le jardinier de famille. Et c'est vraiment ça, c'est les familles qui se mettent en commun pour salarier un maraîcher qui va leur faire des légumes et ils vont se partager de cette production de légumes. Donc c'est un peu le même principe ici. On a une 120 familles qui se mettent en commun pour financer notre activité de maraîchage et qui se partagent l'intégralité de la production.
Est-ce que ça fonctionne à 100%? C'est-à-dire que est-ce que ça vous rémunère par rapport à vos prévisionnels? Est-ce que c'est bon ou bien est-ce que vous avez besoin de vendre ailleurs?
Ça fonctionne à 100% sur les légumes, c'était l'objectif. On n'a pas d'autres circuits de commercialisation que la MAP. Et d'ailleurs, on ne pourrait plus vraiment respecter le principe de la MAP si on avait d'autres circuits de vente. C'est-à-dire que chez nous, les légumes n'ont pas de prix. Le panier de légumes n'a pas de prix. Ce qui a un prix, c'est le financement de l'atelier de maraîchage. Et donc, vu que les gens se partagent l'intégralité de ce financement-là, en retour, ils ont l'intégralité de la production. Mais s'il y avait une partie de cette production qui partait sur un autre circuit de vente, sur un marché, sur un magasin, on serait obligé de lui mettre un prix. Et donc, le deal de la MAP serait plus tenu, vu que les gens financent l'intégralité de notre travail. Si on le vend à d'autres circuits de vente, on ne joue pas le jeu, quoi. Donc c'est vraiment un des principes forts depuis le début, et il y a un principe de solidarité qui joue dans les deux sens. C'est-à-dire que les gens financent notre travail et nos charges en amont pour une saison. Donc la saison, il y en a deux saisons dans l'année, saison d'hiver, saison d'été, mais les deux s'enchaînent. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'interruption, on fait 52 semaines de distribution de paniers par an. Les gens donc financent en amont notre travail sans savoir ce qu'il va y avoir dans le panier, ni en quantité, ni en diversité, ni même en qualité. Et nous, notre rôle en tant que maraîcher, c'est d'assurer des paniers suffisants en quantité, en qualité et en diversité pour que les gens soient contents et re-signent pour une nouvelle saison à la fin, quoi. Mais bah, passe par là, des aléas, on est paysan, on est dépendant du climat, il y a des ravageurs, il y a de la sécheresse, il y a voilà, des maladies, etc. Donc bah, les gens sont solidaires, ils ont financé, nous on fait le travail du mieux qu'on peut, et puis parfois bah, il y a une culture qui ne fonctionne pas bien. Donc bah, cette année-là, les gens n'auront pas de poireaux ou moins de poireaux parce qu'il y a une attaque de mouches mineuses ou pour X raisons il y a une rouille ou je ne sais pas. Mais vu qu'on fait une cinquantaine de légumes, on ne va jamais louper tous les légumes la même année. Donc il y aura beaucoup plus de courges ou plus de pommes de terre ou plus de carottes. Enfin, voilà, on équilibre les paniers comme ça. Donc voilà, on joue le jeu, nous, de la transparence. On présente nos comptes, on leur dit ce qu'on va faire, en quantité, à quel endroit dans le jardin. Il y a des visites de jardin organisées. On écrit une feuille de chou chaque semaine pour expliquer comment ça se passe dans la parcelle de maraîchage, ce qui marche bien, ce qui fonctionne moins bien, justement les aléas climatiques et tout ça. Et bah en échange, les gens jouent le jeu en participant et en venant participer parfois à récolter les légumes, à nous aider à récolter les légumes. Chaque vendredi, il y a deux personnes qui viennent tenir la permanence au moment de la distribution. Enfin voilà, ça marche dans les deux sens, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres producteurs du coup qui sont associés au système de distribution de votre AMAP ?
Oui, alors l'AMAP s'est constitué autour de la production de maraîchère en respectant ce principe financement intégral, partage intégral de la production. Autour de ça, s'est greffé un groupement d'achat qui bénéficie uniquement aux gens qui prennent un panier de légumes. Donc, c'est la condition pour pouvoir rentrer et accéder à tous les autres produits, c'est d'avoir au moins un abonnement sur un panier de légumes. Et ensuite, dans le groupement d'achat, on trouve plus d'une quarantaine de produits qui viennent en direct des fermes, tout en bio. On a exclusivement des produits bio à la MAP de Belêtre et le plus local possible. Donc il y a des produits, pour la plupart, qui viennent d'Indre-et-Loire et même du sud Touraine. Fromages de chèvre, des fromages de brebis, des fromages de vache, des volailles, des pommes, des poires, des farines, des lentilles, des pâtes, je ne vais pas tout citer, il y en a vraiment beaucoup. Et puis il y a des produits qui viennent de plus loin, qui sont en bio, mais qui ne sont pas possibles d'être produits en Indre-et-Loire. Donc on a des agrumes qui viennent de Corse, on a du café qui vient du Chiapas, du chocolat qui vient d'Équateur. Voilà, ça c'est des petites exceptions pour des produits qui viennent de loin, mais 90% de ce qui est commercialisé, distribué à la MAP, vient de l'Indre-et-Loire et si possible du sud Touraine.
Vous m'aviez dit que vous étiez à 120, c'est ça, 120 familles. Est-ce que vous êtes arrivé à votre seuil ou vous pouvez envisager d'avoir davantage encore de familles et donc de produire plus ?
Disons que on a atteint notre seuil d'équilibre pour plusieurs raisons à la fois. La parcelle de maraîchage, les rotations, on a une parcelle de 3 hectares de légumes à peu près, qu'on a découpé en 14 jardins qui font chacun 800 mètres carrés, qui nous permettent de réfléchir une rotation sur 14 ans et de regrouper les familles. Enfin, c'est des considérations techniques, agronomiques, mais en tout cas, la parcelle et le dimensionnement a été pensé à peu près pour cette quantité de légumes. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on ne souhaite pas évoluer, parce qu'on ne veut pas agrandir cette parcelle de maraîchage. Et la deuxième raison, c'est que 120 familles, ça représente déjà beaucoup, beaucoup de monde le vendredi soir. La distribution se passe entre 16h30 et 19h à la ferme. Ça fait une logistique à gérer parce que 120 familles qui achètent 40 produits, ça fait beaucoup, beaucoup de produits, beaucoup de logistique à gérer. Et on s'est dit qu'aller au-delà, ça deviendrait trop compliqué. Aujourd'hui, il nous reste quelques places, c'est-à-dire qu'on a... On a dimensionné pour 120 familles et il reste 7 ou 8 places à la MAP en ce moment. Donc c'est possible de nous rejoindre, mais on n'ira pas au-delà des 120, quoi.
Comment vous expliquez le développement justement de la clientèle ou des AMAPiens, parce que c'est peut-être encore un terme différent que celui de client, du coup qui est passé de 30 à 120 en quelques années, pas tant que ça finalement.
Oui. En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Nous, on avait besoin que la production et la MAP se développe, puisqu'on passait de un paysan boulanger et un maraîcher à d'un seul coup 5 associés paysan boulanger maraîcher. Donc, il y en avait plus de monde à rémunérer, plus de salaires à tirer de notre activité. Et ça s'est fait assez facilement et finalement par le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'il y a encore un an et demi, on n'avait ni site internet, ni fly, ni carte de visite, rien du tout. Nos principaux communicants, c'était nos adhérents. C'est-à-dire quand on leur disait, bon, y a 10 places qui se libèrent, on veut faire 20 paniers de plus ou 25, on leur en parlait, les gens trouvaient des amis, des voisins, de la famille qui sont venus comme ça, petit à petit, faire grossir la map. Donc ça, ça a été vrai pendant les 6-7 premières années. Et là, ça fait un an et demi, post-Covid, là, en gros, sortie Covid, où on se rend compte qu'on a un peu plus de mal à atteindre les 120 familles, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, on vient de faire un site internet, on vient de faire un fly, et on est un peu plus en train de communiquer là, en ce moment.
Nous quittons la ferme de Belêtre pour nous diriger vers la petite commune de Paulmy, dont le maire a souhaité développer une offre de produits de proximité avec vos casiers de campagne, comme nous l'explique Dany Pavula, qui fait partie des producteurs avec les volailles de la Mangrière.
Les casiers de campagne sont un regroupement d'agriculteurs et artisans, car on a le boulanger qui participe énormément aux casiers. Et ce projet est à l'initiative du maire de Paulmy, qui a lancé l'idée, qui a lancé les travaux et qui nous a contactés après au niveau des producteurs pour alimenter les casiers.
Alors, on va revenir sur la genèse. Peut-être rappeler à quelle date ça a ouvert et quelle était la volonté en installant des casiers ici dans le petit village de Paulmy.
Ben, la volonté, c'était de remettre un commerce dans le village de Paulmy, ramener un commerce en milieu rural, on va dire, où il y a plus du tout de commerce. Déjà, ramener un produit local disponible presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans personne à tenir le magasin, quoi. C'était ça, surtout le gros point, c'était avoir une épicerie autonome.
À quel moment ont-ils ouvert ?
De mémoire, ça doit faire un peu plus de 2 ans que c'est ouvert.
Vous y participez. Est-ce que vous pouvez donc me dire qui sont les différents producteurs qui ont accepté la proposition pour participer ?
Alors, dans les producteurs, il y a la fromagerie Maurice, produit de lait de vache. Il y a les Pampilles de l'Oiselière, fromage de chèvre à Ligueuil. Le RL Le Flèche de Siran pour les œufs. Les Vergers de la Manse pour tout ce qui est jus de fruits et pommes. Et l'Arche de Nico, c'est un maraîcher de Ferrières-Larçon qui met des légumes de saison. Et puis nous, le GAEC, la Mangrière, tout ce qui est charcuterie de volaille, les volailles entières. Et sans oublier le boulanger, la boulangerie Hamelin de Ligueuil, qui lui a sa machine à pain dans le local et approvisionne en viennoiserie toute l'année.
D'accord. Alors ensuite, comment ça s'organise et pour chacun des producteurs, en fait, de quel point de vue, pour vous, c'est intéressant et bien de pouvoir fonctionner comme ça avec des casiers automatiques ?
Ben, ce qui est bien avec les casiers, c'est que l'approvisionnement est, pour nous, se fait une fois par semaine. Étant donné qu'il y a une chambre froide attenante au casier, on stocke dans la chambre froide pour toute la semaine. Et bon, on repasse une, voire deux fois dans la semaine pour réapprovisionner. Et le boulanger, lui, passe deux fois par jour au casier pour réapprovisionner sa machine à pain. Et en même temps, gère les casiers, fait le réapprovisionnement des casiers. C'est un gros intérêt pour nous qu'il soit là et qu'il réapprovisionne en permanence. Autrement, ça nous obligerait à passer au moins une fois par jour pour réapprovisionner, quoi. Donc, je vais dire, pour moi, le grand avantage, c'est d'avoir notre collègue boulanger qui fait une bonne partie du travail pour nous aussi.
Et qu'est-ce qu'il y a sinon d'intéressant dans ce système par rapport, vous, aux autres modes de distribution et commercialisation que vous avez ?
On est à un point de commercialisation sans, on va dire, qui ne nous gère pas d'un surcroît de travail et une présence supplémentaire. Voilà le grand point du casier, quoi.
Et par rapport à votre activité, est-ce que c'est un vrai plus depuis que ça existe ou un petit plus ?
Par rapport à mon activité, c'est un petit plus. C'est un petit plus. Voilà, c'est la proximité qui fait qu'on est dans le projet. Bon, si j'avais 20 km à faire pour aller dans un projet comme ça, je ne sais pas si... Ou il faudra que ce soit sur une tournée de livraison. Mais faire que 20 km pour approvisionner un projet comme ça, ça serait un peu juste quand même, quoi. Mais là, c'est la proximité qui fait qu'on est là, quoi.
Est-ce que vous pouvez me dire de votre côté quels sont vos autres modes de distribution ?
Alors, les modes de distribution, le premier mode, c'est les marchés. Donc, on est présent sur le marché de Loches mercredi et samedi et le marché de Vénier le vendredi. Et après, on approvisionne des boucheries revendeurs. Et on approvisionne des grands restaurants, notamment le restaurant étoilé de Loches, l'Arborescence. On approvisionne le château d'Artigny aussi. Et ensuite, on approvisionne le magasin de Ligueuil à la ferme. Et on est dans le magasin de producteurs de Saint-Cyr-sur-Loire, la ferme du Mûrier. Voilà en gros tous les... Bon, puis les épiceries du coin, l'épicerie épiservice JSMP au Grand Poissigny. Donc voilà un petit peu tout notre réseau de commercialisation.
Alors ils ne sont pas là pour répondre, mais est-ce que effectivement pour les autres producteurs, si vous avez le temps d'échanger, est-ce que malgré tout c'est intéressant d'avoir en plus des casiers, de se regrouper comme ça aussi entre producteurs et d'avoir ces casiers dans le petit village de Paulmy?
Oui, c'est un plus. Et puis pour la... Pour la population locale, c'est un plus aussi. Parce que nous, on ne fait pas de vente du tout à la ferme. Donc, je sais, j'ai même des personnes de ma famille qui viennent au casier, quoi. Mais c'est vrai que ce genre de commercialisation, c'est un plus, quoi. C'est un plus.
S'approvisionner en circuit court, le Sud Touraine propose deux magasins de producteurs, Saveur Lochoise à Loches et À la Ferme à Ligueuil, des casiers automatiques à Sème, au Verger de la Manse, à Beaulieu-les-Loches, à la Cabane des Quatre Saisons et vos casiers de campagne à Paulmy. Et de nombreux points de vente à la ferme sont également recensés sur le site internet de Bienvenue à la Ferme. C'était le Sud Touraine dans l'assiette avec Nathalie Frémont, Mathieu Lersteau et Dany Pavula. Le Sud Touraine dans l'assiette est un podcast proposé par la communauté de communes Loches Sud Touraine. Il est signé Anne-Claire Bulliard.